On fête malheureusement le triste anniversaire de 2 ans de lockout pour ce qui est des employés au port de Québec. Genre de choses que quand ça s'étire, malheureusement, on en oublie les enjeux parce qu'il y a d'autres histoires qui arrivent dans l'actualité. On met ça de côté. Tu sais, des fois, on dit loin des yeux, loin du cœur. C'est pas nécessairement ça, mais quand on en parle un peu moins, puis quand ça s'étire, peut-être on perd un peu d'intérêt dans une certaine situation.
Oui, puis dans des situations de négociation comme ça, la pression du public est toujours importante. Tu sais, ça aide toujours les deux parties à travailler ensemble puis à un moment donné à trouver une solution. On n'a qu'à penser au conflit d'Air Canada dernièrement qui a été... qui n'a pas eu lieu, mais justement la pression du public, des voyageurs, la pression du gouvernement fait en sorte qu'on est arrivé à une entente. Mais là, il n'y a pas de pression qui se met d'un bord ou de l'autre. Là, fait que ce conflit-là est comme perdu dans le temps.
Peut-être des bonnes nouvelles à l'horizon.
Peut-être.
On va en jaser avec Marc Rangier, qui est conseiller stratégique pour Ryan Affaires publiques. Vous le connaissez. C'est notre spécialiste en égo et en discussion syndicale. Comment ça va, Marc?
Hey, ça va très bien. Content d'être avec vous.
Ben, toujours un plaisir. C'était le fun de te voir en personne la semaine dernière. Toujours un plaisir. Tu nous as entendu d'entrée de jeu. Malheureusement, oui. C'est le genre de situation qui est inévitable là, quand quelque chose s'étire comme ça. Et là, on parle de 2 ans pour le lockout au port de Québec. Parfois, c'est un petit peu loin dans la mémoire des gens ou dans l'actualité. Comment ça se passe là, pour les employés du port de Québec? Puis comment va le moral?
Ben, et d'abord, j'ai aimé votre introduction parce que vous avez touché un point essentiel. Là. C'est un type de conflit qui est complètement à l'abri du regard public. Pas complètement parce qu'on en parle, là, mais très peu. Mm-hmm. Contrairement, on voit le dossier de la FIC, hein, des infirmières. Le dossier, vous en avez parlé, d'Air Canada. On peut en nommer plein de dossiers qui sont fortement exposés sur la place publique. Puis souvent, la pression de l'opinion publique va aider. On l'a vu dans la négociation du secteur public, c'est très clair que l'opinion publique a joué un rôle important, alors que là, on se retrouve dans un conflit qui a l'air quasiment privé ou qui retrouve à peu près pas d'écho sur la place publique. Puis, mine de rien, c'est en train de devenir un des plus longs conflits, un des plus longs lockouts de l'histoire du Québec.
Quand même!
Oui, c'est pas rien. Là. Les plus longs conflits là, de mémoire, là, j'ai fait une recherche sommaire, mais dans les concessionnaires automobiles, à l'époque, là, ça fait plusieurs années, mais ça a été des lockouts qui ont été très longs, qui ont été un peu plus de 2 ans.
Okay.
Donc, ça, c'était, je pense, le record. Mais quand on regarde dans l'histoire, Journal de Québec, c'est déjà, ça date de 2007-2008, ça avait été 473 jours. Le Journal de Montréal, 2009-2011, 764 jours de lockout. Actuellement, il y a aussi Vidéotron, le centre d'appel, entre autres, à Gatineau, un groupe qui est affilié au SCP, mais qui sont en conflit depuis bientôt 11 mois. Ces trois-là, c'est le même employeur québécois. Mais Port de Québec, c'est 3 employeurs différents, et ça fait 2 ans le 15 septembre, donc ces jours-ci. Fait que c'est un conflit majeur qui a un impact évidemment humain, un coût important, mais j'ai de l'espoir. Là.
Okay.
J'ai de l'espoir parce qu'il y a eu des mouvements. Un des mouvements qu'on a pu constater, c'est je pense que ça fait à peu près 3 semaines, c'est qu'il y a eu un changement au niveau du négociateur syndical. Puis évidemment, quand je dis ça, je mets pas la faute sur le négociateur, la négociatrice précédente, ça n'a rien à voir. Mais à un moment donné, quand un conflit dure aussi longtemps, on est tellement, tellement absorbé que des fois, on voit plus, là, on voit pas la forêt, on voit l'arbre qui est devant nous.
Ouais, c'est ça, on voit plus clair, hein, Marc?
C'est ça, on voit plus clair, tu sais, c'est antagoniser les relations, il y a vraiment de l'animosité. Et puis, la job d'un négociateur syndical, c'est oui d'être avec son monde, mais d'être capable d'avoir une certaine distance, j'appelle toujours ça, moi, un écart hygiénique, pour être capable, à un moment donné, de voir où faire atterrir les affaires. Et donc, nomination d'un nouveau négociateur syndical, il y a à peu près 3 semaines, Marc-André Roy, je le connais, c'est quelqu'un qui, à l'époque, que j'avais embauché au syndicat canadien de la fonction publique,
okay.
Et c'est pas parce que je l'ai embauché qu'il était... mais vous savez ce que je veux dire. Mais c'est un excellent négociateur, il est très posé, calme, et il est intervenu dans plusieurs dossiers chauds, et qui a réussi à faire atterrir, d'ailleurs, au Journal de Québec, pas à l'époque, là, mais plus récemment. Donc, moi, j'ai de l'espoir, puis j'ai regardé en fin de semaine, il y a un article dans Le Devoir de Sébastien Tanguay qui mentionnait là, les deux ans du conflit. Un excellent article. Et là-dedans, je vois une déclaration du directeur des ressources humaines qui, lui aussi, est optimiste. Donc, quand je regarde le changement de ton, le changement de joueur, et là, un ton qui est un peu plus optimiste, je pense que les parties en arrivent à la conclusion, et quand je regardais aussi les déclarations dans cet article-là, que c'est assez, il est temps d'y mettre un terme. Fait que moi, je suis optimiste sur la suite des choses.
C'est super intéressant ce que tu mentionnes, Marc, puis ce que je retiens, c'est que des fois, t'es, le conflit de personnalité, malheureusement, prend le dessus sur les enjeux. Peux-tu nous rappeler, parce qu'après deux ans, t'es, comme on disait en entrée de jeu, on a tendance à l'oublier, c'est quoi les demandes précises des travailleurs, puis c'est où que ça achoppe à l'heure actuelle?
Bien, ce qui achoppe, surtout de ce que j'ai constaté, c'est le fait que l'horaire de travail est souvent communiqué 24 heures à l'avance, donc, ou à très court délai. Donc, ça devient difficile. Le syndicat le dit depuis le début, c'est d'essayer d'améliorer la conciliation travail-famille. Puis on a l'impression que dans le dossier du débardage, que les gens devraient avoir des horaires toujours à dernière minute parce qu'il y a beaucoup d'imprévisibilité. Mais je m'étais pesé par négociateur au port de Montréal que non, on connaît souvent longtemps à l'avance l'arrivée des navires, ce qui va être attendu. Donc, cette espèce de céduler les gens à la dernière minute comme ça, je pense qu'il y a un aspect de pouvoir sauver maximiser là, au niveau de la rentabilité. Mais il y a moyen de trouver un compromis. Fait que c'est surtout là. Ce que je comprends bien, c'est que c'est pas vraiment le salaire, c'est vraiment cette notion-là d'avoir un délai plus raisonnable pour être en mesure de planifier un peu sa vie, puis d'être capable d'avoir une vie de famille aussi. Mais c'est pour ça que c'est quand même surprenant. Deux ans de vacances, alors que c'est pas mal bien campé, quel est le problème? Et c'est là où des conciliateurs peuvent être utiles, comme dans le dossier de la FIC, pour dire à un moment donné, ben voici où je vois la possibilité de règlement. Là.
Ouais. Hey Marc, il faut que tu m'expliques quelque chose. Okay? Oui. C'est peut-être moi qui manque le bateau là-dessus, là, mais pour pas faire de mauvais jeu de mots. Mais pourquoi dans une telle situation, mettons les trains? Bon, il y a eu intervention du gouvernement. Pour Air Canada, on a soulevé la possibilité que si on s'entend pas, il pourrait avoir une intervention aussi de ce côté-là. Pourquoi ça dure si longtemps, ce lockout-là? Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui vient... Je dis ça de même, là, puis je sais que pour toi, c'est pas toujours la meilleure des solutions, on s'entend, mais pourquoi quelqu'un intervient pas là, dans cette situation-là pour régler une fois pour toutes le lockout puis le conflit?
Oui, bien, on sait que dans le cas du Port de Québec, il y a des travailleurs de remplacement parce que la législation fédérale n'est pas encore en vigueur. Donc, l'employeur a le droit d'utiliser du monde pour faire le travail qui était fait par les débardeurs. Alors que si je fais le parallèle avec le transport ferroviaire ou Air Canada, vous allez me dire « Ouais, mais ça aussi, c'est sous juridiction fédérale. » Mais on peut s'entendre qu'on trouve pas des pilotes comme on veut.
Hein? Non, en effet.
Et donc, le rapport de force est extrême du côté des pilotes d'Air Canada. Là, il n'y a pas eu d'intervention nécessaire. Secteur ferroviaire, c'est la même chose. Là. C'est des jobs qui sont difficilement remplaçables. C'est très, très spécialisé. Et donc, pour un employeur, c'est difficile de pouvoir fonctionner normalement. Il n'y a pas la main-d'œuvre qu'il faut. Donc, c'est vraiment l'élément qui distingue ces dossiers-là. Alors qu'au port de Québec, où, je disais tantôt, Vidéotron, centre d'appel, le travail, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu parler qu'il y avait un ralentissement chez Vidéotron des activités. Personne n'en entend parler, comme un peu au port de Québec, parce qu'ils peuvent utiliser des travailleurs de remplacement. Ils peuvent envoyer un centre d'appel, ça peut se faire de n'importe où. Fait que ça enlève toute pression possible. Là. Mm-hmm. Puis, pour revenir à ta question aussi de base, c'est sûr que moi, je ne suis pas en faveur de l'intervention d'un ministre comme ça s'est fait, parce que je voulais qu'il y ait un débat minimalement à la Chambre des communes. C'est ce qui est pour avoir une loi spéciale qui a un débat démocratique. Fait que ça, je vais continuer toujours à être contre le fait qu'un ministre puisse, de son bureau, décider c'est quand la fin d'un conflit ou pas. Parce que c'est drôle, je l'écoutais, le ministre fédéral du Travail, M. McKinnon, là. Il n'est pas bien intervenu à Vidéotron Gatineau. Pourtant, c'est son comté, c'est son mandat, mais ça fatigue pas personne. Fait que ça, c'est pas grave.
Ouais, c'est ça. Hey Marc, quand on regarde le portrait plus largement, puis là justement, je vais essayer de me décoller du fameux arbre que tu parlais tout à l'heure, est-ce que les travailleurs du port de Québec vont avoir eu cette grande victoire d'avoir forcé la main du gouvernement d'adopter une loi qui va interdire le travail des briseurs de grève?
C'est sûr qu'il va falloir chercher une victoire parce qu'il n'y a pas de gagnant dans des conflits qui sont aussi longs que ça. Mais je pense que la multiplication des lockouts a aussi amené, le Port de Québec, ça a été un des déclencheurs de l'adoption de cette loi-là. Mais à un moment donné, je pense que les parlementaires se sont aperçus, même les conservateurs au niveau fédéral, ce qui est c'est un réalignement vraiment de la part de Pierre Poilievre, mais qu'à un moment donné, il fallait un certain équilibre. Mais fait que ces longs conflits-là, la multiplication des lockouts a fait en sorte que ça a mis ces dispositions-là. Fait que les débardeurs du Port de Québec pourront dire qu'ils ont été partie prenante de ça. Mais entre vous et moi, c'est perdre 2 ans de salaire, là, ça fait un méchant trou dans une vie, dans une vie familiale, une vie émotive. Fait qu'il n'y a pas de gagnant. Hier n'a pas de gagnant.
Marc, si je comprends bien la discussion qu'on vient d'avoir avec le nouveau négociateur, peut-être que le vent pourrait changer. Peut-être qu'on aurait des bonnes nouvelles. On pourrait régler le conflit. D'un autre côté, tant aussi longtemps que le port réussit à rouler à plein régime avec des employés qui remplacent, ben on n'est pas pressé. C'est-tu pas mal ça, de même que ça se résume, là, cette situation-là?
Oui, écoute, oui, tu l'as très bien résumé. Mais je pense qu'en même temps, l'employeur, parce que là, on en parle quand même plus au niveau du Port de Québec, parce que là, ça frappe l'imaginaire. Hein? Ça devient un des plus longs conflits de l'accord de l'histoire du Québec. C'est pas rien. Fait que je pense que l'employeur, de son image corporative, là, à un moment donné, il faut qu'il se dise veut pas, là, c'est correct. Là. Puis surtout que c'est cette question-là de conciliation travail-famille. À un moment donné, il faut trouver des solutions.
Absolument. Marc Rangé est conseiller stratégique pour Ryan Affaires publiques, notre spécialiste en égo et en discussion syndicale. Marc, toujours un plaisir. Merci pour ton temps.
Merci, Marc.
Merci à vous autres. Salut.
Salut, à bientôt.
Juste pour spécifier pour nos auditeurs, parce qu'on a parlé de la loi justement qui va empêcher les travailleurs de remplacement, cette loi-là a été votée à la fin de la dernière session à la Chambre des communes. Donc, elle a été votée au printemps 2024, mais elle entre en vigueur seulement le 20 juin 2025.
Et tabarouette, OK.
Alors, c'est ça. Fait que ça fait en sorte que le lockout pourrait durer encore pratiquement un an, montant en septembre jusqu'en juin. Fait que c'est pour ça qu'il y a quand même des rondes de négociation puis qu'on souhaite que le conflit se règle là, avant le 20 juin 2025. Ben, sinon, ça va être un retour au travail, entre guillemets, obligatoire parce que le port ne pourra plus utiliser travailleurs de remplacement, mais on s'entend que ça serait dans un contexte qui serait très particulier.
C'est un peu capoté dans la cadre pendant 2 ans. Là. Pensez-y.
Ben,
un
ça
peu,
pas de
là,
sens.
Pendant 2 ans de temps, là, à pas faire ton métier, ouais, là, à pratiquer ton métier. Là,
moi, je pensais qu'il y avait des enjeux salariaux là-dessus, puis tout ça. Mais non, Marc nous disait que c'est de la flexibilité d'horaire. C'est un peu le même combat que l'École bleue de la Ville de Québec livre actuellement au niveau de la flexibilité pour les horaires.
Circulation, Max, avant la pause?
Oui, ça reste difficile à plusieurs endroits, notamment Capitale-Ouest, là, encore bien au rouge, voire même rouge foncé entre Seigneurial et Laurentienne à cette heure-là. Ça peut être tannant. 73 Nord, c'est encore au-dessus de l'avenue de la Rotonde pour aller vers le pont de Québec. 20 Ouest entre Chemin des Îles et l'autre bord de Taniata, c'est au rouge. En 4 direction sud, ça va quand même beaucoup mieux, mais encore à l'auteur de Chauveau-Ouest, ralentissement. Et Dufresne Montmorency-Ouest, il y a un véhicule lourd immobilisé, accès provenant du boulevard des Capucins, c'est partiellement entravé.
Merci, Max, et merci pour les infos que vous nous envoyez. Quand vous pouvez le faire en toute sécurité, là, par texto, 418-971-1021. Courte pause, l'émission se poursuit tout de suite après. Vous êtes à Rage Against le matin, boulevard 1021. Bon jeudi. Rage.